centre de Mbujima et au Kasai Oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bon début de week-end à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole. Nelson Mandela, l'ancien président sud-africain, est décédé hier à son domicile de Johannesburg autour des 19h50. Heure française, ce personnage le plus illustre pour les Sud-Africains à cause de sa lutte véritable contre l'apartheid, a vécu aussi toute sa vie pour la cause de l'humanité. Avec la mort de Mandela, c'est un facteur d'unité, d'harmonie qui disparaît. Le monde entier rend hommage à cet homme et la RDC pleure aussi un des parrains de sa démocratie. Quels sont selon vous les acquis de la lutte de Mandela que les Congolais peuvent capitaliser aujourd'hui dans son processus de démocratisation du pays? Réjoignez-nous à l'adresse pa@radiokapi.net et appelez-nous au 081 890 3315. Merci Nadine Foula pour la réalisation de cette émission et merci à toi Dieudonné Nyangasa pour la mise en onde de ce programme présenté et coordonné par J.R. Lungembo sous la supervision de Nicole Ngaka. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiokapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi. Nous avons en ligne professeur Mwaila Tchimbe qui est analyste politique. Professeur, vous êtes avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour.
Voilà, on va revenir à vous d'un moment à l'autre. Le temps pour nous de repasser d'abord de l'autre côté des standards pour voir avec nos auditeurs qui vont intervenir dans cette émission. Bovic, vous êtes avec nous à Johannesburg. Bonjour. Oui, Bovic, vous êtes avec nous? Monsieur Bovic.
Allô?
Oui, Bovic, vous êtes avec nous?
Je vous écoute. Je vous voilà, entends. Je vous appelle depuis l'Afrique du Sud, possiblement à Johannesburg.
Oui. Alors, je disais tout à l'heure, Nelson Mandela, l'ancien président sud-africain, s'en est allé hier à son domicile de Johannesburg autour de 19h50, heure française. Alors, quels sont selon vous les acquis de la lutte de Mandela que les Congolais peuvent capitaliser aujourd'hui dans le processus de démocratisation du pays?
La mort de Mandela nous a appris vraiment beaucoup de choses. Il a lutté pour la libération au sud du Congo. C'est lui qui avait facilité la réconciliation entre le frère Mobutu et le frère Laurent Désiré Kabila sur le Lille de Outenita. Cette mémoire, c'est vraiment déplorable pour l'ancien président de la République Nelson Mandela. Il est le monument vraiment qui a réconcilié, qui a combattu sur le... C'est l'élite de la partie dans son pays, à l'Afrique du Sud. Et nous aussi, les Congolais, nous sommes obligés à le suivre, à prendre cette acquisition que Mandela a pris à lutter pour l'Afrique qui va être libérée. Merci.
Merci beaucoup, Bovic, d'avoir appelé de Johannesburg. Là, vous évoquez notamment la question sur la réconciliation et aussi le processus de démocratisation de la RDC. On était déjà très engagés au moment où il y avait une crise qui s'était installée dans l'est de la République démocratique du Congo. Et Mandela s'est levé pour organiser cette époque-là, au fait, la rencontre entre Kabila, Laurent Désiré Kabila et le fait président Mobutu. Merci beaucoup. Bovic d'avoir appelé. Eddy, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, monsieur Pierrot.
Mais c'est plutôt J.R. Lungembo qui est à l'antenne, Eddy. Voilà. Yeah, voilà. Yeah. Eddy, quels sont selon vous les acquis de la lutte de Mandela que les Congolais peuvent capitaliser aujourd'hui dans le cadre du processus de démocratisation de la RDC?
Pour être direct, je dirais deux choses. La première, souvenez-vous de la libération de monsieur Mandela en 1990. Il est sorti de la prison tout souriant. Quelqu'un qui a passé 27 ans en prison, il sort souriant. Et quelques années plus tard, il a eu le prix Nobel avec Frédéric de Klerk. Ils se sont serrés la main. C'est un homme qui a su pardonner à ses bourreaux, qui a pardonné à ceux qui ont fait souffrir son peuple. Et nous, ici en République démocratique du Congo, après 20 années de guerre, nous infligés par nos voisins. C'est connu, c'est un secret de Polichinelle, comme on le dit. Nous devons pardonner. Nous savons qu'il y avait une guerre à l'Est et que l'M23, par exemple, c'était une armée monoethnique. Nous devons aujourd'hui pardonner à nos frères. Nous devons, en face de la cruauté, nous rendre la bonté. C'est ce que Mandela a fait. Il a pardonné. Il a mis la croix sur le passé. Il ne voyait que le futur. Nous aussi, nous devons demander à aux leaders d'opinion de l'Est, les chefs coutumiers, les députés provinciaux, les députés nationaux. Nous devons demander au gouverneur, même à notre président de la République, de mettre une croix sur le passé, de voir maintenant l'avenir de notre peuple, de mettre en place la réconciliation avec nos frères qui, c'est vrai, ils ont été instrumentalisés. C'est la première chose que je retiens. La deuxième, si vous regardez M. Mandela, vu sa notoriété, vu sa popularité, c'était un homme qui devait faire même 20 ans au pouvoir en Afrique du Sud. Mais il n'a fait qu'un seul mandat. Après un mandat, il a refusé de se représenter. Alors qu'il était très populaire, il pouvait prendre un deuxième mandat. Pourquoi pas un troisième, modifier la constitution si possible. Mais il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, tout le monde retient que c'était vraiment un homme grand. Pourquoi ? Parce qu'il a donné, la possibilité aux autres de diriger le pays. Et nous, Congolais, nous devons nous en inspirer. Nous devons demander à nos leaders politiques de ne pas toucher à l'article 220. Lorsque quelqu'un fait deux mandats, il doit passer le bâton à quelqu'un d'autre. J'ai dit, monsieur Cher.
Merci beaucoup, Eddy. Là, vous nous révélez que, disons, par rapport à votre intervention, que Nelson Mandela est une personnalité majeure de l'histoire du XXe siècle, qui est devenue aujourd'hui une source d'inspiration universelle pour ses valeurs de pardon et de réconciliation. Et vous en appelez aux hommes politiques de la RDC par rapport à ses acquis. Nous devons les capitaliser, c'est-à-dire parler plutôt du pardon et de la réconciliation, en tout cas à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'opposition ou de la majorité. Merci beaucoup, Eddy, d'avoir appelé 081-890-63-15 pour votre intervention en direct ou encore le 081-890-43-39.
Parole aux auditeurs.
Professeur Moïla Tiyembe, vous êtes analyste politique, directeur de l'Institut panafricain des géopolitiques de Nancy en France. Et là, vous intervenez en direct de la France. Rebonjour, professeur.
Oui, bonjour.
Voilà, vous avez suivi les deux premiers intervenants de tout à l'heure. Quelle est d'abord la réaction à chaud par rapport à leurs préoccupations, par rapport à leur intervention?
Ben, disons que les deux personnes qui viennent d'intervenir ont dit des choses tout à fait pertinentes parce qu'elles sont justes. Premièrement, Nelson Mandela, s'il est adulé aujourd'hui à travers le monde, c'est parce que ça a d'abord été un humaniste. C'est l'homme, l'un des rares dirigeants africains et dirigeants au monde, avoir une certaine idée de l'homme libre et une certaine idée d'une société démocratique. Parce que ici, où nous vivons, avant même la sortie de Mandela de prison, il y avait des idées, pas seulement d'extrême droite, même des gens bien sensés, penser que l'avènement de la majorité noire au pouvoir devrait coïncider avec une sorte de, comment dirais-je, faire payer le prix à la minorité blanche de tout ce qu'elle a fait comme sévices, meurtres, assassinats, marginalisation de la majorité noire. Mais Mandela, s'il est adulé aujourd'hui, c'est parce qu'il a compris qu'il faut exercer un leadership de responsabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes un meneur d'hommes, vous devez avoir un idéal. Avant même l'arrestation, le jugement, Mandela, dès le premier année de la création de l'ANC, il voulait une société libre et démocratique. Et c'est ce qu'il a réalisé, effectivement, en mettant le destin des Blancs, le destin des Indiens, le destin des Noirs, dans le même idéal. C'est ce qui fait que aujourd'hui il est admiré par tout le monde parce qu'il a fait l'impossible en créant une société démocratique multiraciale avec les mêmes droits et les mêmes devoirs pour les Indiens, pour les Blancs et pour les Noirs. Donc voilà, à mon avis, l'élément fondateur de sa personnalité qui réjaillit évidemment sur son action à la fois à l'intérieur ou à l'extérieur. Tout à l'heure, votre correspondant parlait du pardon, hein, la politique de pardon et de réconciliation. Mais évidemment, c'est une leçon que les Congolais peuvent tirer. Non seulement le correspondant a parlé de la situation de l'Est, de la RDC. Le M23 vient d'être vaincu, les armes à la main. C'est une première. C'est la première fois depuis bien longtemps, non seulement que l'armée congolaise en construction, les RDC, ont pour une fois, avec un commandement remusclé, avec une détermination des responsables, on a vu le résultat, bien sûr, avec le soutien des Nations Unies. Mais alors maintenant, la guerre seule ne suffit pas. Il faut aller vers la paix des esprits, à être congolais, ceux qui ont pris les armes, ceux qui n'ont pas le sang sur la main, il faut les considérer comme congolais et essayer de voir, comme il a été prévu, le DDR, parce que tout le monde n'a pas le droit d'être militaire. On peut considérer que les combattants trompés à tort ou à raison, qui reconnaissent la primauté de la République et qui se soumettent aux lois, peuvent être réinsérés au niveau social, formés comme mécaniciens, charpentiers, des jeunes, de formation professionnelle qui permettent à ces jeunes, souvent dévoyés, demain, de retrouver un travail et de refaire leur vie. Oui. Évidemment, ceux qui ont commis des crimes, on peut les traduire devant les juridictions, parce que la République ne doit pas faire une justice de sauvage.
Devant oui, professeur.
La République a prévu le droit pour pouvoir juger les gens et rendre justice.
Oui, professeur, nous avons vu Mandela qui s'est impliqué personnellement dans l'établissement d'un pays véritablement de droit, en République démocratique du Congo, avec sa médiation de l'Utenika 1 et 2 pour préparer donc la passation du pouvoir entre Monsieur Mobutu et Laurent Désiré et Kabila. Son implication également pour l'organisation des élections de 2006 et tant d'autres actions que l'Afrique du Sud a pu mener aux côtés de la République démocratique du Congo en tant que partenaire. Alors aujourd'hui, tous ces acquis de la lutte de Mandela pour la paix au Congo, comment devons-nous les capitaliser?
Ben, disons que l'Afrique du Sud, depuis Mandela jusqu'à ce jour, a mis sur pied ce qu'on peut appeler la diplomatie morale ou une diplomatie d'apaisement, une diplomatie de réconciliation. Et cet investissement au Congo, il faut rappeler peut-être à ceux qui n'étaient pas là, c'est qu'aujourd'hui, si le Congo a retrouvé la paix lorsque Laurent Désiré Kabila est affreusement assassiné en 2001, et que Joseph Kabila arrive au pouvoir, il a eu l'intelligence d'accepter que la bataille pour le pouvoir soit déréglée et que les opposants, vous savez qu'à l'époque de Mosé, vous avez dit tout ce qu'ils ont mangé avec le diable et qu'ils ont trahi, moi je ne peux pas les accepter. Et Joseph a eu l'intelligence de dire oui, puisqu'on se bat pour le pouvoir, on partage le pouvoir. Dès lors qu'il a accepté le principe de partage de pouvoir, le gouvernement de l'Intérieur congolais a eu un sens et ceux qui combattaient contre son pouvoir, ont accepté. L'Afrique du Sud a été pour beaucoup dans la réalisation de cette réconciliation, le dialogue intercongolais qui s'est tenu à Senussi. Donc, c'est grâce à cette négociation ou à cette médiation de l'Afrique du Sud que les premiers pas de la démocratisation de la République démocratique du Congo ont été jetés. Évidemment, aujourd'hui comme hier, une partie parmi les brigades, la brigade d'intervention des Nations Unies qui fait la guerre à l'Est avec les FARDC, l'un des contingents vient de l'Afrique du Sud. Mm-hmm. C'est pour montrer que depuis ces premières années, l'Afrique du Sud n'a jamais lâché la République démocratique du Congo et aux côtés des Congolais et de leur gouvernement. Et bien entendu, Mandela lui-même de son vivant avait tenté la négociation ou la réconciliation entre Mobutu et Laurent Désiré Kabila. Malheureusement, cette négociation n'a pas abouti, mais cela fait l'Afrique du Sud de Mandela et de ses successeurs n'a pas abandonné le Congo. C'est tout ce que nous venons d'indiquer tout à l'heure. Quelles leçons les Congolais peuvent tirer, gouvernant et gouverner? Mais votre correspondant de tout à l'heure, au-delà de la réconciliation, il y a la question du pouvoir. Mmh. Mandela a accumulé aujourd'hui 27 ans d'une vie en prison, en train de cacher la pierre. Donc, il vient, d'ailleurs, l'une des conséquences de ce problème pulmonaire est liée à la vie horrible en prison. Mais Mandela n'a pris le pouvoir que pour un mandat seulement. Et vous connaissez la querelle au Congo, est-ce qu'on va réviser l'article 220 ou est-ce qu'on ne va pas la réviser? Le président de la République a déjà rappelé plus d'une fois qu'il respecte la Constitution. Toute la société congolaise aujourd'hui va pour que cette Constitution soit respectée. Alors, si on veut tirer la leçon de la sagesse de Mandela, c'est de soutenir l'action du chef de l'État pour que la Constitution soit respectée, y compris dans cet article 220, pour que les années qui viennent, le Congo puisse se former véritablement à un État démocratique, parce que le respect des constitutions, le respect des lois, c'est aussi, comment dirais-je, un critère de crédibilité, de l'espérance qu'on a. Parce que Mandela, s'il avait vu le problème de l'Afrique du Sud en regardant son nombril, il ne se serait pas projeté dans cette société d'immunité raciale. Il serait contenté de régler les comptes avec les Blancs, de régner autant que faire se peut et de tirer sa révérence. S'il est vénéré aujourd'hui, c'est parce qu'il a vu l'avenir. Donc, il y a là une autre leçon de respect des règles, de respect de la Constitution, qui est une leçon non seulement pour le pouvoir, mais aussi pour l'opposition. Pour l'opposition. Parce que si demain l'opposition arrive au pouvoir, il faut qu'il s'inculque la même pensée de respecter les textes, de respecter la Constitution. Évidemment, il y a la réconciliation des Congolais. Il n'y a pas si longtemps, les concertations nationales, oui, pour mobiliser le pays derrière le gouvernement, derrière le président, face à la menace qui pèse à l'Est. C'est voilà. Aussi une démarche de réconciliation. Parce que quand on est dans une société divisée, où les gens, par les temps qui courent, les problèmes sociaux, les problèmes économiques, les problèmes de logement, les problèmes de santé, et vous souvenez-vous de 5 chantiers, hein, l'accès à l'eau, l'accès à l'école, l'accès au logement, les problèmes des infrastructures, toutes ces questions-là créent des clivages dans une société. L'intérêt des dirigeants, c'est de chercher autant que faire se peut l'harmonie sociale en écoutant le maximum des gens et d'avoir une politique plus près du citoyen. Et l'autre leçon de Mandela, c'est le pouvoir pour servir la nation.
Voilà, professeur.
Mandela n'a pas voulu le pouvoir pour lui-même.
Voilà, professeur, on va encore repasser à nouveau au niveau du standard pour retrouver Patient qui est à Kinshasa et Franklin à Bukavu. Patient, vous êtes avec nous. Bonjour, François.
Allô?
Patient, vous êtes avec nous.
Bonjour, c'est Confiance Kabongo.
Alors, Confiance Kabongo, bienvenue dans cette émission, on vous écoute.
Comme d'habitude, bonjour Mbote Djambo à tous les occupants de la radio DKP, mais surtout mes condoléances à tout le monde entier et le peuple du monde entier, partisans de la paix, de la réconciliation et de l'amour des autres. Pour répondre à votre question, je pense que les acquis de Mandela que nous pourrions capitaliser, j'aurais souhaité parler de la simplicité, la grandeur de cœur, la grandeur de l'âme, la reconnaissance, l'altruisme, l'objectivité dans la constance et dans l'unité, le vrai pardon sincère. Si je parle de ça, c'est avec beaucoup de remords, beaucoup de mal, c'est parce que Mandela a vraiment été mon héros. C'est quelqu'un que j'ai toujours souhaité avoir dans la vie. L'humilité qui a caractérisé sa vie montre aux autres qu'on n'est pas le seul qui peut rendre service à la nation. Il a montré aux gens qu'il avait toutes ses capacités, mais il s'est rendu compte et il a dit: je préfère que la destinée du peuple sud-africain soit entre les mains des plus jeunes qui peuvent faire mieux que moi. Quand il parle de la jeunesse, il voit beaucoup plus un esprit jeune. Il avait le charisme, il avait la capacité de rester longtemps au pouvoir, mais il a pensé qu'il n'était qu'un pont pour le passage de son pays, de la répression de la majorité vers la liberté de la majorité. C'est une grande leçon pour nos politiciens qui sont beaucoup plus centrés sur eux-mêmes par peur de leur avenir pour ne pas avoir servi réellement l'intérêt des autres, mais beaucoup plus leurs propres intérêts. Je pense que c'est tout ce que j'ai pu dire sur Mandela.
Voilà, merci beaucoup. Confiance, là vous rejoignez d'ailleurs l'archevêque anglican Desmond Tutu, qui est considéré au fait à 90 ans comme la conscience morale de l'Afrique du Sud, qui dit, je cite, « Au cours de 24 années depuis sa libération, Madiba nous a appris comment vivre ensemble et croire en nous-mêmes et en chacun. » Merci beaucoup, Confiance Kabongo, d'avoir appelé. Nous prenons Franklin qui est à Bukavu. Franklin, bonjour.
Bonjour, Gire. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Kapi. Bonjour à notre invité et mes condoléances au monde entier.
Voilà, bienvenue dans cette émission et vous avez la parole.
Oui, moi, la vie de Mandela m'inspire un certain nombre de choses. D'abord, de Mandela, j'ai lu que c'était un homme qui était acquis pour la lutte pour l'intérêt général, la lutte pour la liberté de tous. C'est quelqu'un qui ne mettait pas en avant tous ses propres intérêts, contrairement aux acteurs politiques congolais aujourd'hui, qui avant tout, toutes leurs actions, tout ce qu'ils posent est orienté d'abord vers leurs propres intérêts. Je pense que c'est un leadership qui aujourd'hui devrait être suivi, devrait être copié comme exemple aujourd'hui dans le monde entier. Mandela aujourd'hui n'est pas n'importe qui. À travers sa lutte, à travers ce qu'il a mené, il lui a valu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Deuxièmement, Mandela montre à tout le monde que nul n'échappe à son destin. Mandela qui est emprisonné pendant 27 ans, mais en étant emprisonné pendant 27 ans, il ne lâche pas sa lutte. Contrairement à ce que nous vivons aujourd'hui, des gens qui se laissent corrompre, des gens qui se laissent dans n'importe quel désordre, on est seulement de leurs propres intérêts. Mais Mandela accepte de mourir pour la cause noble. Nous avons besoin de ces gens. La grande leçon aussi que je garde de Mandela, donc c'est quelqu'un qui est un plus démocrate. Regardez aujourd'hui, Mandela, pendant qu'il est populaire au niveau dans l'Afrique du Sud, il accepte de laisser le pouvoir. Ce n'est pas n'importe qui. Aujourd'hui, il est difficile de trouver des hommes comme Mandela dans le paysage politique congolais. Il avait toute la possibilité d'être élu, d'être réélu plusieurs fois en Afrique du Sud grâce à ce qu'il a mené, mais il accepte que nous, les autres, peuvent poursuivre ce qu'il a commencé. Voilà ce que moi, je voudrais aussi proposer aux acteurs politiques actuels, de ne pas, comme l'a dit mes prédécesseurs, de ne pas toucher à l'article 220. Qu'on laisse la démocratie dire son droit. Ça, c'est en fait la leçon qu'on peut tirer de Mandela. En plus, et après, ce que je tire de Mandela, c'était un rassembleur. Aujourd'hui, nous suivons l'actualité politique de l'Afrique du Sud. Aucune personne, qu'il soit de la majorité ou de l'opposition, tous sur au nom du nom de Mandela. C'est que vous comprenez que Mandela, c'était un rassembleur qui a su fédérer autour de lui les gens de la majorité, les gens de l'opposition et la société civile. Pour Mandela, quand on parle de Mandela en Afrique du Sud, on ne sait pas la majorité ou l'opposition. Voilà ce que moi je pourrais garder de Mandela. Vraiment, Mandela, c'était une icône pour toute la société congolaise. On a dit sa contribution lorsqu'il y avait la guerre à la République démocratique du Congo, on a suivi sa contribution lorsqu'il a mis ensemble Laurent-Désiré Kabila et Mobutu. Donc c'était un rassembleur, comme je l'ai dit, c'était un démocrate, c'était quelqu'un qui était plus orienté vers l'intérêt général. Et moi, je voudrais terminer en disant encore paix à son âme, à ce grand homme de la planète.
Merci beaucoup, Franklin. Pour vous, Mandela, c'est un héros de l'humanité. Et par sa constance d'esprit, il est resté vraiment constant dans sa vie politique. Et vous en appelez également à cet esprit au sein de la classe politique congolaise, et que le personnel politique puisse imprégner cela dans leur vie quotidienne, dans tout ce qu'ils font, pour permettre à ce qu'on puisse réellement travailler pour l'intérêt de la population. C'est de cette façon-là que nous pouvons capitaliser ces acquis de la lutte de Mandela, qui reste une icône pour l'Afrique. Merci beaucoup, Franklin, d'avoir appelé de Bukavu. Guillaume, vous êtes à Irumu, dans la province orientale. Bonjour.
Bonjour Roger, je suis à Bogoro, là où le petit cobra matata règne.
Voilà, bienvenue dans cette émission Parole aux auditeurs, qui vous accorde la parole, une émission 100% interactive. Vous avez la parole.
Oui, merci beaucoup Roger. Je profite de ma présence à Bogoro pour demander à ce petit monsieur appelé cobra matata de déposer les armes, car il a un mot plus supérieur devant lui. Le mot
voilà Guillaume, si on peut aller tout droit au but, par rapport au sujet du jour, à la thématique du jour.
Par rapport au sujet du jour, bon, ça c'est une interpellation. Par rapport au sujet du jour, je crois que nous sommes tous frappés, nous sommes tous préoccupés par, avec cette situation. Mandela a été quelqu'un qui a combattu que la cause du Congo ne soit pas brûlée. Si je rejoins, Mandela a rejoint les bons ciels avec une invitation de Dieu réservée à nous tous. Mais quels sont ses acquis pour moi et pour le monde? En tout cas, je peux vous dire que Mandela était une personnalité soleil, c'est-à-dire il a été une autorité soleil. Il a éclairé les noirs et les blancs. Il avait des feedbacks. Donc Mandela a voulu que le peuple se retrouve dans ce qu'il fait. Alors c'est rare chez nous. Chez nous au Congo, on a des autorités ici, mais peut-être à 7h, il faudrait même qu'on les atterre à 8h, parce qu'ils sont des autorités qui ne servent à rien. Donc si on rate par rapport au sujet, donc nous sommes tellement préoccupés, nous sommes tellement frappés. Donc qu'est-ce qu'il faut? Je crois que le fait que Mandela a eu seulement à travailler pendant 5 ans, je crois que c'est rare dans ce monde que quelqu'un quitte le pouvoir avant que le pouvoir le quitte avec des systèmes de modifier, des constitutions, tout consort. Je crois que ça devait être un exemple très fort pour nous. Je crois que je n'ai pas tellement beaucoup de belles phrases aujourd'hui à formuler.
Merci beaucoup. Merci Guillaume. C'est gentil de votre part pour laisser également la parole à Pascal qui est à Kinshasa. Pascal, bonjour.
Bonjour.
Vous avez la parole, Pascal.
Oui, il y a des personnalités qui ont dit que Mandela, sa mort, c'est une grande lumière qui s'éteint sur le monde. Je crois que ça résume exactement cela. C'était un très grand homme. Moi, j'ai eu à le rencontrer quand j'étais jeune journaliste envoyé spécial de TKM à Outenika 2. C'était lorsque l'ancien président Mobutu et Kabila, le père, s'étaient rencontrés. Donc on était à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville. On attendait que Kabila vienne, il n'est pas venu, et c'est Mandela qui faisait en fait la médiation entre Kabila et Mobutu. Et c'est à cette occasion-là que j'ai eu à le voir et à l'interviewer. Donc je suis très ému par la mort de ce grand homme.
Oui, Pascal Amissi, vous avez été parmi les témoins, en tout cas des journalistes qui ont été les témoins de début des négociations à Outenika 1 et à Outenika 2. Aujourd'hui, s'il faudrait quand même nous brosser le tableau ou en tout cas nous faire une idée sur l'image de cet homme, en un mot, tu les résumerais en quoi?
C'était l'homme de la conciliation. Il voulait toujours que les choses se passent calmement. Et c'est en fait cette image-là que je garde de lui. Je me rappelle à l'époque, à la dernière rencontre à Outenika 2, la tension était très vive. On attendait l'arrivée de Laurent Désiré Kabila, qui n'est pas venu. Mais Mandela est allé voir Mobutu, qui était à ce moment-là très malade déjà. Il était dans la villa qui lui avait été cédée en face de l'océan, à Pointe-Noire. Il est allé, il est resté avec le président Mobutu pendant plus d'une heure. Ils étaient en tête à tête, il lui a parlé. Il est sorti, il était très calme et nous a dit « Bon, le président Kabila ne viendra pas, donc on va se retrouver en Afrique du Sud pour continuer les négociations. » Donc c'était toujours ça, c'est l'homme qui voulait toujours négocier, trouver des solutions aux problèmes par la négociation. Donc c'est en fait ça.
Oui, est-ce qu'on peut dire qu'après 2001, c'est-à-dire après la mort de Laurent Désiré Kabila, Mandela était quand même déçu du fait que le processus de démocratisation de la RDC ne prenait pas des avancées très significatives?
Oui, tout à fait. Je me rappelle qu'il y avait comme de l'exaspération un peu quand il est sorti de la chambre là où était le président Mobutu. Il était un peu comme énervé parce que en fait lui il voulait absolument trouver une solution dans le calme et apparemment chacun restait un peu buté dans son coin.
Sa position, oui.
C'est ça exactement.
Pascal Amissi, vous êtes journaliste et vous avez eu la chance en tout cas de d'être l'un des témoins de ces négociations à Outenika 2. Et merci d'avoir accepté de contribuer dans cette émission pour rendre hommage à celui qu'on a appelé effectivement donc l'héros de l'humanité. Merci beaucoup Pascal. William, vous êtes à Kalemi, vous êtes avec nous. Bonjour William.
Bonjour messieurs les journalistes. Aujourd'hui c'est un moment malheureux pour moi. De constater la perte d'un grand homme comme Mandela. Mandela qui a fait preuve de la grandeur d'un homme d'État. Mandela qui a fait preuve de la maturité politique en Afrique. Mandela a accepté de vendre sa vie pour l'unité de l'Afrique du Sud en luttant contre l'apartheid. Aujourd'hui a laissé bonheur a laissé la paix aux Sud-Africains. Personne ne pourrait jamais ignorer le preuve que Mandela a fait pour l'unité des Sud-Africains aujourd'hui. Il est le symbole de l'unité africaine. Il est le modèle à suivre pour les dirigeants africains, et plus particulièrement le dirigeant congolais. Ils doivent suivre le modèle Mandela, de ne pas en fait chercher à s'accrocher au pouvoir pour leur fin politique, pour chercher à remplir leur poche personnelle. Écoutez, messieurs les journalistes, je vais dire ceci. Ce n'est pas s'accrocher au pouvoir que vous pouvez mourir en étant honorable, mais non jamais. Mais on peut mourir en servirant le peuple congolais et mourir avec l'honneur. Aujourd'hui, Mandela est chanté partout. Mandela, ses souvenirs sont les symboles de tout le monde aujourd'hui. Je demande au peuple congolais de pleurer Mandela. Je demande aux dirigeants congolais de ne pas chercher à s'éterniser au pouvoir, mais plutôt de chercher le bonheur du peuple.
Voilà.
Aujourd'hui, tout le monde chante, tout le monde pleure Mandela. Est-ce que ceux qui dirigent aujourd'hui le Congo, après leur mort, qui pourrait pleurer pour eux?
Voilà, je crois que c'est pas nous de le dire aujourd'hui à William. Je crois que l'avenir nous en dira un peu plus. Le temps de revenir à notre invité, professeur Mwaila Tshiembe. Francis, vous êtes en Bandaka, restez un peu en ligne. Hein. Professeur Mwaila, vous êtes encore avec nous en ligne?
Oui, je suis avec vous.
Voilà, vous avez suivi cette deuxième série des auditeurs. Quelle est votre réaction?
Oui. Ma réaction va dans le sens des propos de tout à l'heure, c'est-à-dire lorsque votre confrère journaliste a rapporté les propos sur Otedika, ce bateau sud-africain sur lequel s'est déroulée la médiation de Mandela, pour dire que s'il y a une leçon à tirer dans le sens de la médiation, c'est que Mandela avait le sens de la vérité et que un des critères de médiation, c'est de parler vrai. Il a utilisé ce principe de parler vrai, notamment chez nos voisins burundais, au lendemain de l'assassinat du président Ndadaye, le Burundi a flambé. Et que, pour mettre fin à cette violence, le président Nyerere était engagé dans les négociations depuis bien longtemps. Malheureusement, il est décédé et on a demandé à Mandela de prendre le relais. Mais lorsque Mandela a pris le relais, il a vu les Hutus et les Tutsis. Il leur a dit, dès notre monde, qu'une minorité ne peut pas éternellement dominer une majorité. Et la majorité ne peut pas dire, ah, parce que nous ne sommes une majorité sociologique ou tout, nous devons écraser la minorité tout de suite parce que la loi démocratique, c'est la loi de la majorité. Il faut partager le pouvoir de telle manière que les Tutsis aient aussi leur bout de pouvoir et que les Hutus aient leur bout de pouvoir. En termes de quota, c'est-à-dire dans l'armée, dans la police, dans la diplomatie, dans la représentation nationale, Sénat, Assemblée nationale, avant les élections libres, démocratiques et transparentes, la constitution du Burundi, dans le regard de Mandela, partage total de pouvoir entre minorité et majorité pour éviter que l'une des parties ne soit écrasée par l'autre, soit au nom de la minorité, soit au nom de la majorité. Aujourd'hui, la paix au Burundi, on la donne à cette vision de Mandela. Il aurait pu dire, comme beaucoup de gens, oui, le Burundi est une nation, tout le monde est citoyen, donc je ne regarde pas. Non, il est allé au-delà de ce que Nyerere soutenait pour dire non, les Tutsis, ce ne sont pas des Hutus. Les Hutus, ce ne sont pas des Tutsis. Alors, il faut que chacun ait un bout de pouvoir et des droits et des responsabilités. C'est ce qui fait l'enjeu du pouvoir burundais aujourd'hui. Donc, être leader, c'est dire la vérité. Regardez l'ANC. L'ANC n'avait pas la même idée de la réconciliation avec les Blancs. Être leader, dominer d'abord son camp et soumettre son camp à la raison. Prenons un exemple. La guerre, nous souhaitons qu'elle soit désaffinée avec la défaite du M23. il est prévu dans les accords de 2009 pour lesquels le M23 prétend qu'il a pris les armes parce que ces accords n'ont pas été respectés. Quelle est une des clauses? La clause, une des clauses est que les Congolais qui ont fui, les petits Congolais qui ont fui, rentrent au pays et récupèrent leurs biens. Est-ce qu'on peut demander aux politiciens congolais de l'opposition comme de la majorité, ou même de la paix, d'aider le gouvernement à faire appliquer cette disposition avec le HCR et le pays d'accueil pour que les Congolais qui allaient sur le pays, qui rentrent dans leur pays, donc dans le nord ou le sud qui vaut, qui avaient leurs biens, et si leurs biens ont été confisqués, les Congolais ont des tribunaux aujourd'hui.
Tout à fait.
On peut voir qui avait quoi, au lieu de faire des discours en flâneur à Kinshasa, d'aller faire des discours en flâneur à Thomas ou quelque chose encore, et ces gens-là, ces responsables politiques, les ONG de l'ensemble du pays et du Kivu en particulier, le nord et le sud, tout le monde doit prendre sa responsabilité pour aider à ce que, quand il y a des accords de paix que le gouvernement a signé avec des compatriotes qui, à un moment donné, ont failli à la reconnaissance de la République, au nom de la paix, tout le monde doit souhaiter que les Congolais qui sont partis, qu'ils rejoignent, s'ils le désirent, et que ceux qui avaient leur bien, si ces biens ont été indûment confisqués par d'autres Congolais, que la justice passe et que la paix puisse se faire. Voilà le message qu'on peut tirer.
Voilà, professeur, oui, professeur, on va encore repasser au standard pour une troisième fois, afin d'accorder la parole aux auditeurs. Mais laissez-moi quand même avoir quelques précisions par rapport à cette question. Est-ce que pour vous, Mandela, peut-être compter aujourd'hui parmi des promoteurs de la coopération sud-sud ou encore de la coopération régionale?
Évidemment, Mandela, avant 1994, il y avait déjà ce qu'on appelait la SADC, mais ce n'est pas la SADC avec un seul C, la Communauté de Développement de l'Afrique australe. Mais il y avait ce qu'on appelait les pays de la ligne de front, qui avaient créé une sorte d'organisation régionale anti-apartheid, c'est-à-dire les pays de la ligne de front voulaient s'imposer en créant une organisation économique régionale qui devrait s'opposer à l'Afrique du Sud. C'est l'arrivée au pouvoir de Mandela qui a permis à l'Afrique du Sud d'adhérer à ce qu'est devenu aujourd'hui la communauté économique de l'Afrique australe ou la communauté économique de l'Afrique australe, dans laquelle la République démocratique du Congo est devenue un État membre qui, demain, pourra être une des grandes zones économiques. Ça, c'est la vision sud-sud, parce que l'Afrique du Sud, c'est une puissance économique et financière, mais il aussi se contenter cela en disant, bon, je ne regarde pas la RDC, je ne regarde pas le Zimbabwe, je ne regarde pas l'Angola, je m'occupe de mes affaires. Donc Mandela a eu l'idée géniale de dire, l'Afrique du Sud nouvelle, place associée au destin économique des autres pays pour partager le temps commun. Voilà une vision sud-sud du développement. Bien sûr, dans les grandes négociations internationales, Mandela était l'icône de ceux qui appelaient de leur vœu à ce qu'il y ait une sorte de réconciliation entre le monde développé du Nord et le monde sous-développé ou en voie de développement du Sud, mais à condition que Mandela insiste sur la responsabilité. Le pays du Sud n'a pas dormi sur leur laurier en disant bah, « nous attendons que le ciel tombe, que la manne tombe du ciel du Nord ». Il appelait les dirigeants africains à prendre leurs responsabilités. C'est l'idée de la Renaissance. L'Afrique, pour Mandela,
alors donc, il faudrait qu'aujourd'hui,
que si chaque pays africain prend ses responsabilités dans le travail, dans la réalisation du bonheur pour lui.
Voilà, je crois que c'est cela qu'il faudrait capitaliser maintenant. Francis est en Bandaka, Deo Gracias est à Bounia. Francis, bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs de la radio Kati.
Voilà, bienvenue dans cette émission. Votre point de vue.
D'abord, je vais d'abord présenter mes condoléances à toute l'humanité qui a perdu l'incarne emblématique de la liberté et l'équité. Concernant les acquis démocratiques de Nelson Mandela, je vais beaucoup plus insister sur la réconciliation. La non-représailles. Nelson Mandela n'a pas cherché à se venger.
Voilà, Francis, oui, Francis, je crois que on va évoluer quand même. Hein. Il y a cette intervention, il y a beaucoup d'intervenants. Vos prédécesseurs sont revenus sur cet aspect des choses, réconciliation, pardon. Et notre invité a pu orienter ses préoccupations, les préoccupations des uns et des autres. Donc nous sommes au fait très bien fixés par rapport à cette proposition. Merci beaucoup, Francis, d'avoir appelé. Nous prenons plutôt Deo Gracias qui est à Bounia. Deo Gracias, bonjour.
Oui, bonjour. Je dis merci à Radio Cap pour m'avoir accordé la parole. Monsieur le journaliste, il me serait mieux de commencer par dire d'abord que le président africain d'aujourd'hui, quand on voit leur attitude, ce n'est pas ce qu'a adopté Nelson Mandela. Donc, ils ont l'attitude, quand ils meurent, nous voyons qu'aucun n'est regretté, alors qu'aujourd'hui, eux tous voient que Nelson Mandela est regretté par le monde entier. Monsieur le journaliste, je pense qu'il est aujourd'hui vrai qu'aucun président africain ne peut être regretté après avoir quitté le pouvoir. Parce qu'il aime d'abord l'alternance au pouvoir. De deux, il ne se donne pas à penser au peuple qui leur ont donné le pouvoir, mais pense à leur propre intérêt. Donc Nelson Mandela doit être pour nous, Congolais surtout, un exemple pour la réconciliation, surtout entre les politiciens, qui ne pensent pas qu'on peut militer pour le peuple que quand on est au pouvoir. Donc, nous avons vu pendant les élections, il y a quelqu'un seulement sous surveillance, donc il appelle tout le monde à manifester. Nelson Mandela a passé 27 ans en prison, il a appelé personne à manifester. Il s'est donné pour son peuple, pour l'Afrique du Sud, jusqu'à ce que l'Afrique du Sud a retrouvé la démocratie. Aujourd'hui, c'est un pays qui est miroir à tout le monde.
Voilà, donc Deo Gracias, vous en appelez à un leadership responsable dans ce pays pour qu'on arrive réellement à un pays véritablement démocratique, c'est ça?
Effectivement, parce que c'est de ne pas nous le voir avec la situation politique de notre pays. Donc tout le monde se déteste, on ne voit pas qui...
Voilà, on se regarde dans chez défaillance. Merci beaucoup, Deo Gracias. Nous prenons l'honorable Jean-René Lumbana Kapasa, qui est à Kinshasa. Bonjour, honorable.
Je ne suis pas honorable, mais enfin, bon, merci. Radio Capi, je suis... Lumbana Kapasa, bon, donc ancien journaliste plutôt qu'un arabe.
Ben voilà. Non, un petit correctif, hein. C'est vrai, parce que là, sur mon écran, je voyais autre chose, hein. Mais c'est plutôt Monsieur Lumbana Kapasa, journaliste de la RDC.
Oui, je vous écoute.
Voilà. Alors, vous avez suivi de près l'actualité depuis l'arrivée au pouvoir de Mandela. Et Mandela qui s'est impliqué personnellement dans l'établissement d'un pays des droits, donc le pays démocratique en RDC. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon et comment on peut les capitaliser?
La leçon qu'on peut retenir, d'abord, c'est quelqu'un qui a énormément souffert de la violence d'un régime inhumain, le régime de l'apartheid, et qui, sorti de prison, on aurait pu penser qu'il allait chercher à se venger de ses bourreaux, mais il a réussi par sa grandeur d'âme, par sa stature de grand homme qu'il était et qu'il demeure encore, je crois, jusqu'à maintenant, et il restera bien sûr dans l'histoire. Il a réussi véritablement à trouver la voie qu'il convenait pour ce grand pays, c'est-à-dire la voie de la réconciliation, la voie de l'entente entre des personnes brimées, la grande majorité de la population africaine et la minorité blanche. Donc c'est cela, je crois, que la grande leçon qu'on doit pouvoir retenir de cet homme immense pour son propre pays, pour l'Afrique et pour l'histoire du monde.
Voilà, alors Jean-René, vous avez été aux côtés du président Mobutu comme membre de l'équipe de la presse, de communication. C'est vrai que vous avez eu aussi à accompagner le président lorsqu'il y a eu des négociations Outenika 1 ou Outenika 2. Est-ce que vous pouvez nous retracer un peu l'implication de Mandela dans la recherche de la paix en RDC?
Non, malheureusement, je me trouvais chez moi pour des raisons de santé, donc je n'étais pas de ce voyage, pratiquement jusqu'à la fin du départ du président du pays. Je ne l'ai pas vu dans les derniers moments, mais par contre, président Mobutu avait reçu le président Mandela à Goma, quasiment dans les semaines ou les jours qui ont suivi sa sortie de sa détention. C'était un moment vraiment extraordinaire. Nous croyons rêver quand on a vu arriver Mandela. Il a rencontré le président. C'était en fait deux géants. Mobutu qui a dominé l'histoire quand même africaine, on doit pouvoir le dire, qui a aussi beaucoup travaillé dans la libération de l'Afrique australe, le Mozambique, et aussi dans les aides qu'il a données à l'ANC. Et donc c'était une rencontre, de l'histoire combattante. C'était un moment extrêmement important. J'ai vraiment, je revois les images de ces instants-là.
Donc, et le premier contact là, quand vous avez vu en fait Monsieur Mandela, ça vous inspirait quoi, ce premier contact quand vous l'avez vu pour la première fois?
Moi, ce qui m'a impressionné, c'est la douceur. Il y a la stature physique, c'est un personnage physiquement imposant, c'est un colosse, mais quelqu'un qui a beaucoup souffert, mais on ne voyait pas. Si vous voulez, les marques, les traces de cette douleur. Quelqu'un qui est capable de transcender les atrocités les plus monstrueuses, or Dieu sait s'il en a connu. Et donc, c'est un homme vraiment exceptionnel à tout point de vue.
Voilà, merci beaucoup Jean-René Lumbana Kapasa, vous êtes à Kinshasa, merci d'avoir accepté de contribuer dans cette émission, et nous prenons tout de suite Kabacha qui est à Bukavu. Kabacha, bonjour. Kabacha, vous êtes avec nous? Voilà, dommage, la ligne. On a des petits soucis avec la ligne de Kabacha. Nous revenons à vous, professeur Moïla. Professeur Moïla Tchiembe, vous êtes avec nous en tant qu'analyste politique. Vous avez suivi les uns les autres. Et surtout, cette troisième série que nous avons pu présenter dans ce standard. Alors, quelle est la réaction que vous avez?
Alors, permettez-moi d'abord de saluer un de vos confrères, Lumbala Kapasa, l'une des grandes figures du journalisme congolais, qui me rappelle encore les souvenirs de nos années de jeunesse en l'écoutant. Je voulais, avec votre autorisation, le saluer. Alors, quant à ce qui concerne la dernière série, il y a la question de la transcendance, après M. Lumbala Kapasa tout à l'heure. Un leader, c'est pas seulement celui qui suit. C'est lui qui applaudit, qui a des gens autour de lui, qui cherche à manger, à boire. Le leader, c'est celui qui entraîne. Mais quand on entraîne, on a une idée de ce que l'on veut faire. De comment on entend le faire. On ne peut pas entraîner par le coup. La transcendance de Mandela, c'est l'idée que lorsque l'ANC a été créé, lui-même à la prison, Lumbala a dit tout à l'heure qu'en le voyant, son visage n'affichait pas les signes de prison, tout ce qu'il est. Il a engrangé tout ça par devant lui, mais il ne le montrait pas. Il avait ses blessures dans son corps et dans son âme, mais il ne voulait pas, par exemple, quand il venait négocier, aider Kabila, Laurent Désiré et Mobutu à faire que le Zaïre soit sur le chemin de la paix, il n'affichait pas ses propres misères, ses propres souffrances. Mais ça, c'est une des qualités du leadership dont vous parliez tout à l'heure. Mmh. Lorsqu'on est un leader et qu'on exerce un leadership éclairé, on doit assumer ses charges, y compris les malheurs personnels. Ça, c'est une grande leçon pour les dirigeants congolais d'aujourd'hui et de demain. On a souffert, on a été en prison, on a été malade, on a subi des traumatismes quelconques. Lorsqu'on veut gouverner le Congo, même un jour, on ne doit pas chercher la vengeance. On ne doit pas traduire ce qu'on a en disant, voilà, moi j'ai souffert, donc si demain je suis ministre, je vais faire voir. Si demain je suis gouverneur, ils vont voir. Si je suis député, ils vont voir ce qu'ils vont voir. Ça, ce n'est pas la qualité d'un homme d'État. Or, l'homme d'État, ce n'est pas seulement le président. L'homme d'État, c'est un gouverneur. L'homme d'État, c'est un député. L'homme d'État, c'est un maire. Donc chacun, là où il est, s'il assume la charge publique,
Et ça rejoint l'autre idée qui était dans le débat, l'intérêt général. Mmh. On ne gouverne pas pour soi. Malheureusement, les jeunes d'aujourd'hui, diplômés ou non, quand on a une petite responsabilité, on cherche une grosse maison, on cherche une grosse voiture, alors que la voiture, comme la maison, on n'a pas les moyens par son salaire de l'acheter. Mais si on veut l'avoir, où est-ce qu'on peut trouver les moyens? C'est la corruption, c'est le détournement des biens publics. Or, Mandela n'a rien pris dans la carte de l'État sud-africain. Pourtant, ce pays est probablement le plus riche des pays africains. Il s'est contenté des émoluments qui lui sont dus. Mandela n'a même pas cherché à trouver des postes pour ses enfants ou pour ses amis proches. Il suffit de regarder l'Afrique du Sud aujourd'hui pour voir qu'il n'est allé intervenir nulle part pour demander un privilège pour tel ou tel. Voilà l'homme d'État, voilà les leçons pour les gouvernants congolais d'aujourd'hui et de demain.
Voilà, on va terminer avec Kabacha qui nous a rejoint finalement. Kabacha qui est à Bukavu et Sadrak à Bandaka, on va terminer avec eux. On va leur accorder 30 secondes à chacun. Kabacha, vous êtes à Bukavu, bonjour.
Bonjour papa, pour être bref, je demanderai ceci. Quelle opposition congolaise pardonne tous les péchés de ceux qui sont au pouvoir et leur tendre la main? Ça, Mandela l'avait fait. Pour ceux qui sont au pouvoir, travailler de concert avec cacique de l'ancien parti État, le MPR anciennement au pouvoir, mais aussi avec l'opposition, sans pour autant disposer de hier soir l'idée d'une politique politicienne, mais le seul objectif, la survie de la nation. Pour la politique internationale, que tous les Congolais résistants comprennent que nous devons suivre les conseils de la société internationale, écouter ceux qui nous ont précédés dans la science et la politique. Je demanderai aussi à la société internationale d'être claire dans ses agissements sur la RDC. Nous sommes prêts à coopérer parce que nous sommes majeurs. Tout cela, Mandela l'avait fait. Je dis merci à Nelson Mandela. Que la terre soit douce et de nos ancêtres.
Merci beaucoup, Kabacha, et coucou à tous ceux qui nous suivent à Bukavu, au Sud Kivu. Nous terminons avec Shadrach qui est en Bandaka. Shadrach, bonjour.
Oui, bonjour, JR, bonjour à notre député, et qu'il me soit permis de présenter mes condoléances à la famille Madiba. Ce que j'aimerais dire simplement, une constance de la mort de notre héros, d'apprendre aux dirigeants africains qu'ils aient le courage et de punir les entourages comme Nelson Mandela avait accepté qu'on puisse punir sa propre épouse Winnie Mandela. Parce que des fois, l'entourage de nos dirigeants cherche surtout à détruire les dirigeants et on les laisse impunis. Voilà.
Voilà, merci beaucoup Shadrach. On a également des petits soucis avec votre ligne, hein, parce que là, ça sort avec quelques petits problèmes. Nous allons revenir à vous, professeur Moyelou. Nous avons, on va peut-être avant tout prendre, disons, un autre auditeur, mais laissez-nous quand même le temps de lire quelques messages. Et nous vous disons merci à tous ceux qui ont déposé leurs commentaires sur notre page Facebook. Laurent Kasereka de Beni dit ceci, province, disons, la mort de Nelson Mandela devient une grande perte non seulement pour les Sud-Africains, mais aussi pour les autres pays qui étudient la littérature africaine pour vouloir dire un mot que c'est toute l'Afrique qui est endeuillée. Et c'est un grand baobab scientifique qui vient de nous quitter sans le vouloir, que son âme repose en paix dans le royaume des ancêtres. Alors on me fait comprendre que, voilà, je vois sur mon écran, voilà, qu'il y a un autre journaliste qui nous a rejoint, donc on va lui accorder aussi une minute de parole. Alors Kibambi Chitoa, qui est à Kinshasa, bonjour Kibambi.
Bonjour.
Voilà, vous avez suivi peut-être de près ce débat avec les auditeurs autour de la mort de Nelson Mandela. Est-ce que on peut, parce que vous avez été parmi l'équipe de presse aussi de président Mobutu, qu'est-ce qu'on peut retenir chez vous de la personne de Mandela et comment on peut les capitaliser, parce que cet homme a eu quand même à s'impliquer dans le processus démocratique de la RDC?
Non, moi je voudrais parler de cette personne à titre personnel, parce que quand je l'ai vu, j'avais l'impression ce jour-là, comme si j'étais devant un homme qui était mort et qui était revenu à la vie. Pourquoi? Parce que vous imaginez, toute la presse en avait parlé, toute la presse en parlait tous les jours, et vous avez la chance de voir cet homme devant vous, à 3 mètres de vous. C'est un mythe que nous avions devant nous, une présence qui vous cloue sur place, un sourire comme ensorcelant comme ça, sourire permanent, sourire magique, il incarnait une sorte de puissance charismatique, une puissance qui vous cloue sur place et vous savez, vous avez l'impression que qu'il n'est pas fait de chair et de sang. C'est cet homme que moi j'avais vu à Goma en tant que reporter. C'est le même homme qu'on retrouverait sur Utenica, qui était donc en race de Comanche de Pointe-Noire, mais affaibli, comme bonifié, comme ça, puisque la circonstance le permettait. Moi, j'ai l'impression, et je vais terminer par là, que des gens comme ça, Dieu en crée comme ça une fois tous les 100 ans.
Des phénomènes.
Franchement, c'est un homme extraordinaire.
Merci beaucoup Jean-Pierre Kibambe Chintoa d'avoir appelé dans cette émission. Voilà, donc pour répondre à vos propos par rapport au sourire, lui-même avant même sa mort, il disait « Je ne doute pas un seul instant que lorsque j'entrerai dans l'éternité, j'aurai le sourire aux lèvres ». Voilà, c'était des propos de Mandela et comme on le sait, il est heureux, il a dit « Je suis heureux de voir mon pays grandir en paix après des décennies de ségrégation raciale ». Professeur Mwailou, en un mot, en tout cas juste une phrase, qu'est-ce qu'on peut retenir de la thématique du jour de ce débat?
Ben, on peut retenir que sur la dernière phrase de notre ami Kibambe Chintoa, Mandela était reconnu comme l'homme exceptionnel. Mais lui-même, avant cette mort, ne cessait de dire qu'il n'était pas indispensable. Qu'un jour, quand il dit qu'il quitte le pouvoir, on les excuse, mais vous voyez, Mbeki ne peut pas assumer la charge, l'Afrique du Sud risque de basculer dans les violences, etc. Mandela dit, oui, je sais tout ce que vous dites de moi, mais je ne suis pas indispensable. Mbeki fera quelque chose, après lui, d'autres prendront la relève. L'Afrique du Sud est toujours là, indépendamment du fait que Mandela ne fait pas aux prises de pouvoir réel et direct.
Professeur Mwailou, TMB, analyste politique, vous êtes directeur de l'Institut panafricain des géopolitiques de Nancy en France. Merci d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir intervenu par téléphone depuis la France. On se retrouve très prochainement.
Merci à vous.
Allô? Allô? Allô?
Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Merci à Dieudonné Nyangassa pour la mise en onde de cette émission réalisée par Nadine Foula. Lungebo JR a eu le plaisir de vous les présenter, de vous la présenter donc sous la supervision de Nicole Gaga. On prend rendez-vous avec vous lundi pour un autre numéro.